Changer, c'est apprendre. Hein. Comme disait Sénèque, le but de l'éducation, ce n'est pas le savoir, c'est l'action. Il ne faut pas... Allez, je suis contre ce que certains appellent la pédagogie bancaire. On entasse des connaissances comme dans une banque. Mais pourquoi faire? Le but, c'est l'action, c'est d'agir sur son environnement. Le but de l'éducation, c'est aider l'enfant à... Comment dire? Je cherche un mot, mais conquérir son environnement. Mais c'est un peu trop guerrier. À agir sur son environnement vers plus d'équité, plus de justice en tout cas, et plus de respect. Donc changer, c'est apprendre. Et donc je reviens encore à cette illusion de l'enseignant, du formateur qui dit « moi je ne veux pas influencer mes clients, je ne veux pas influencer mes formés ». Si, vous devez les influencer. Mais pour autant qu'il y ait un consensus social sur le sens du changement. Hein, je tiens pour certain qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation. L'éducation est un projet politique et social. Il n'y a pas une mauvaise éducation à Sparte où on apprenait à se battre et une bonne éducation à Athènes. On ne peut pas comparer comme ça. C'est leur degré de pertinence par rapport à un milieu social qu'il faut prendre en compte. Et vous, dans votre pratique, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le degré de pertinence des changements que vous souhaitez induire, qui est important. J'ai relevé trois attitudes fondamentales qui sont transversales par rapport aux trois exposés que nous avons vus. 1. Je les écris d'abord et je les explique après. Habeas emotum. Ah, c'est du jargon, hein. Je vous explique, c'est très simple en fait. Vers 1660, en Angleterre, on invente habeas corpus. Qu'est-ce que ça veut dire habeas corpus? Que tu aies le corps. C'est un progrès, mais décisif, en matière de sciences juridiques. Jusque-là, on enfermait les gens, ils n'avaient pas le droit d'être présents à leur procès. Et en réaction à cet arbitraire, quelques juristes anglais inventent habeas corpus. Que tu aies le droit d'être présent de corps devant tes juges, au lieu de pourrir au fond de ta prison. C'est un progrès décisif. Par analogie, les psychopédagogues parlent de habeas emotum. Que tu aies tes émotions. Le droit d'exprimer ces émotions. Pourquoi? Parce que, trop souvent, dans notre culture, nous sommes des analphabètes de l'émotion. Nous sommes des daltoniens de l'émotion. Et j'en ai fait l'expérience souvent. Quand j'étais jeune et plus costaud, j'allais dans les supermarchés. Je vous conseille de faire l'expérience en rentrant. Vous verrez le problème du changement. Donc vous prenez votre caddie, Guilleret, et vous voyez une file, et vous essayez de passer avant tout le monde. Que croyez-vous qu'il arrive? Eh bien, presque dans tous les cas, j'avais deux types de réactions. Je tombais sur de timides ménagères qui commençaient à grommeler, mais qui ne disaient rien. Et j'en avais honte. Mais enfin, c'était pour l'expérience. Ou bien je tombais sur des gros castor cérésien qui me disait « Tu veux un poing dans ta gueule ?» Alors là, je rebroussais chemin. Vous parlez d'une communication. Je crois que j'ai eu une fois, et c'était une dame qui m'a dit « Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment très pressé ?» Alors là, j'ai eu un large sourire, elle aussi. Et j'ai été faire la queue. Donc, nous sommes un peu des barbares émotionnels. Oui. Qu'est-ce que je pourrais encore dire là-dessus? On prend un peu au dépourvu, hein, si je dois chercher mes exemples. Oui. En tout cas, je retiens que, étymologiquement, émotion et motivation, c'est la même chose, mauvais rêve. C'est ce qui fait bouger les gens, n'est-ce pas? Avant, on disait aux vendeurs, laissez vos émotions au vestiaire. On disait aux enseignants, Laissez vos émotions au vestiaire, tout ira mieux. Oh non, pas du tout. Je crois que l'émotion fait partie de l'apprentissage, donc elle fait partie du changement. Allez, je vais donner un exemple personnel. Un matin, j'arrive devant mes étudiants avec une sale tête. Ah. Figurez-vous que on m'avait volé mon portefeuille la veille, j'avais fait une bosse à ma voiture, je m'étais disputé avec ma femme. Alors, les étudiants, ils me regardent perplexes. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Et finalement, je dis, écoutez, hein, on m'a volé mon portefeuille, j'ai abîmé ma voiture, je me suis disputé avec ma femme. Éclaterie générale, la communication s'est rétablie. Non, si je n'avais laissé mes émotions au vestiaire. Attention, on ne vous demande pas une autobiographie lyrique, on ne vous demande pas un déferlement émotionnel. Non, on vous demande simplement d'être plus vrai dans votre communication quotidienne avec les autres. Deuxième outil, je ne sais pas comment l'appeler parce que les psychopédagogues ont un mot encore jargonnant, ils disent le conflit socio-cognitif. Alors je vais l'appeler plus simplement le conflit conceptuel ou le débat conceptuel. Allez. Débat conceptuel. On n'a rien inventé, savez-vous. Montaigne disait il faut limer sa cervelle contre celle d'autrui, disait-il. Il avait inventé le conflit socio-cognitif. Parce que souvent, on réinvente des choses en leur mettant des nouveaux mots. Débat conceptuel. Pourquoi? Parce que si vous n'essayez pas d'identifier, je le disais tout à l'heure, les représentations que se font les personnes d'un phénomène ou de quelque chose, comment voulez-vous provoquer des vrais changements? Allez, on parlait du sida dans un atelier tantôt. J'étais en Afrique un jour et je parlais avec un collègue docteur en mathématiques universitaire. Il me disait, moi, je ne crains rien du sida parce que chaque matin, j'ai un solide petit déjeuner, je peux m'offrir ça avec du lait et des œufs, donc je ne crains rien. Sa représentation, c'est ça. Mais si vous ne la connaissez pas, comment voulez-vous l'aider à changer? Dans la formation en sciences, on s'aperçoit de plus en plus qu'il faut partir des représentations, faire avec et aller contre. Si vous les bousculez trop vite, si vous collez un magnifique schéma scientifique sous les yeux de vos élèves, sans passer par leurs représentations, vous construirez sur le sable. Un instituteur raconte, un matin, je donne à mes élèves de quatrième une magnifique leçon sur l'araignée, les pères. Je montre la beauté de sa toile, sa constitution, les services qu'elle rend à la société, etc. Le lendemain, je leur demande un dessin d'araignée. Ils me dessinent tous un monstre infâme, hérissé d'antennes et de piques. Parce que les représentations sont tenaces, n'est-ce pas? Si vous n'essayez pas de les identifier, pour mieux en discuter, débat conceptuel, conflit socio-cognitif, eh bien, là aussi, vous construisez sur le sable. Il y a, sur Internet, vous pouvez aller voir, modèle allostérique de l'apprentissage. Je m'excuse, allostérie, c'est un terme de la biochimie, A2LO-stérique. Et là, on explique comment, pour provoquer un changement durable, vous devez faire prendre en compte les représentations. Oui. Le débat conceptuel. Troisième outil. Pygmalion, Galatée et les autres. Qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que dans cette salle, certains connaissent l'effet Pygmalion. Je m'excuse de le rappeler pour les autres, mais Bon, Pygmalion, c'est un sculpteur célèbre de l'Antiquité. Hein? Il avait sculpté une femme magnifique en marbre blanc, qu'il avait appelée Galatée. Il est tombé éperdument amoureux de sa création. Et dans sa l'extrême bonté, la déesse Athéna a donné vie à Galatée. Alors, le sens du mot Pygmalion, on dit dans la vie un Pygmalion, ben, c'est quelqu'un qui est capable de provoquer des changements chez les autres, n'est-ce pas? De qui tient-on cette recherche? Oh, ça date des années 48 déjà. On l'appelait autrement. On l'appelait la prophétie autoréalisante. Parce que le fait de prédire quelque chose tend à provoquer la chose. Sauf en météorologie, malheureusement. Mais en 68, Jacobson et Rosenthal et Jacobson vont dans les classes. C'est publié sur le, en français Pygmalion dans la classe. Ils vont dans les classes et ils baratinent l'enseignant. Ils disent, nous allons faire un test d'épanouissement intellectuel. Alors ils donnent un test tout à fait quelconque et ils choisissent dans la classe de façon aléatoire 4 ou 5 élèves. Et ils disent à l'enseignant, voilà, nos tests révèlent que ces 4 ou 5 élèves, ils sont sur le point de s'épanouir intellectuellement, vous n'en croyez pas vos yeux. Et au miracle, les élèves choisis comme ça au hasard se révèlent performants, leurs résultats scolaires sont en hausse et deviennent meilleurs. Avant ça, ils avaient essayé sur des rats. Ils avaient... Oui, oui. Ils avaient trouvé des étudiants en psychologie. Vous savez, ils s'amusent, ces étudiants en psychologie, à mettre des rats dans les labyrinthes pour mesurer les performances. Alors, ils avaient pris l'eau de rat. Ils avaient dit aux étudiants, voici des rats exceptionnels, n'est-ce pas? Ça, c'est des rats. C'est l'élite des rats. Hein? Puis, à d'autres, ils avaient pris de la même lignée, un autre nombre de rats, et on dit, bon, ça c'est fin trace, c'est tout ce qui reste, malheureusement, on n'en tirait pas grand-chose, mais enfin, débrouillez-vous avec ça. Et quelque temps après, aux stupeurs, les rats réputés de l'élite devenaient plus performants. Et les rats réputés moins bons étaient médiocres, effectivement. C'est curieux quand même. On a répété l'expérience souvent, même dans les formations en soudure. On avait prédit, on a choisi quelqu'un, un candidat soudeur au hasard, et on l'avait désigné comme étant vraiment le meilleur des éléments. Il est devenu le meilleur. Et tout ça inconsciemment. Parce que quand nous révélons aux formateurs, aux enseignants, que les prédictions étaient fantaisistes, ils sont furieux, ils ne croient pas. Et pourtant, c'est vrai. Donc, nos attentes et nos croyances façonnent la réalité. Malheureusement, ça peut aller dans les deux sens, n'est-ce pas? Si vous avez, vous pouvez avoir un effet Pygmalion négatif. Si vous n'attendez pas grand-chose des gens dont vous vous occupez, ils ne produiront pas grand-chose. Hein? Dans les entreprises, on emploie souvent l'effet Pygmalion dans la gestion du personnel. Et ça marche. Mais dans notre vie courante, parfois on a des attentes assez médiocres envers notre conjoint ou envers nos adolescents. Allez, imaginez un peu un effet Pygmalion négatif. Face à votre bébé de 12 mois qui commence à marcher, vous vous exclamez « Ha ! Tu n'y arriveras jamais sur tes sales petites pattes tordues !» Eh bien, gageons que cet enfant n'apprendra jamais à marcher. Or, mutatis mutandis, c'est ce que nous faisons parfois avec nos proches. Alors on s'étonne que la résistance au changement arrive.